récemment, on a annoncé un déploiement d'à peu près 350 millions parce qu'on est allé chercher 220 millions à la Banque d'infrastructures canadiennes pour déployer nos propres bornes de recharge. La différence, c'est qu'on les vend pas, ces bornes-là, on les possède. We own and operate. C'est ça qu'on parle.
C'est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 238e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudi matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que le groupe G7 qui est derrière ce podcast produit également 3 autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook de haut niveau. Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Et le dernier en date provenant d'une acquisition No Pay No Play, un balado qui introduit les acheteurs médias à la publicité sur les plateformes de Meta. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques, venez discuter en direct avec moi sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. Changer le monde, c'est très souvent un des objectifs de tout entrepreneur qui se lance en affaires. On possède une idée, une vision et par la suite, on se met au travail pour l'exécuter. Certains ont de plus petites idées et d'autres ont des envies de grandeur pouvant avoir un impact de changer le monde. Mon invité du jour, Louis Tremblay, a déjà accompli beaucoup de choses dans sa carrière. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Fondateur de Flow, une organisation responsable de plus de 100 000 bornes de recharge pour des voitures électriques en Amérique du Nord, Louis est un visionnaire hors norme. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il voulait avoir un impact sur l'électrification et l'amélioration de nos conditions de vie concernant l'environnement. C'est ainsi qu'en 2009, il se lance et 14 ans plus tard, son organisation est maintenant un joueur important dans son domaine et n'est pas prêt de s'arrêter. Les 550 employés qui travaillent avec lui ont tous à cœur la vision de l'entreprise et leur vision de changer le monde prend de plus en plus forme. Sans plus attendre, ma discussion avec Louis Tremblay. Louis Tremblay, vous êtes le président et cofondateur de l'entreprise Flow, créateur des bornes à recharge Flow, leader en Amérique du Nord dans sa catégorie. Lancée en 2009, l'entreprise a su littéralement créer une industrie dans la dernière décennie en ayant maintenant près de 550 employés dans ses rangs, des clients partout en Amérique du Nord et près de 100 000 bornes installées sur le continent. Louis Tremblay, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci Antoine, ça fait plaisir d'être à Hypercroissance.
Et Louis, ton entreprise opère autant envers le consommateur qu'envers certains distributeurs. Donc, on pourrait dire que vous êtes dans le B2C et également dans le B2B. Est-ce que ça serait possible pour toi aujourd'hui de bien nous expliquer qu'est-ce que Flow, qu'est-ce qui vous distingue, quels sont vos canaux de distribution?
Yes. Certainement, Antoine. Juste pour commencer, notre objectif, nous, c'est vraiment de donner un endroit aux gens pour se recharger. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens qui considèrent le véhicule électrique, même les gens qui ont un véhicule électrique, sachent qu'ils peuvent compter sur Flow. Fait que peu importe l'endroit où est-ce qu'ils vont aller, qu'ils puissent se recharger. Que ce soit à la maison, où est-ce qu'aujourd'hui 80-90% de la recharge se produit, que ce soit sur la route, sur des bornes de recharge ultra rapides qui rechargent les gens en 15 minutes, ou que ce soit au travail, dans un hôtel, au centre d'achat. On est vraiment là pour, oui, offrir des bornes, mais en arrière de ça, s'assurer que les bornes fonctionnent tout le temps. Donc, il y a du logiciel, il y a un service, il y a des gens d'opération de réseau, il y a des équipes qui vont aller s'assurer que les bornes fonctionnent. Toujours faire en sorte que le réseau est disponible, que le réseau est accessible au bout des doigts, que ce soit à travers notre application mobile, que ce soit avec les partenariats qu'on a avec les grands constructeurs automobiles qui permettent d'accéder à nos points de recharge directement dans le système de navigation. On est vraiment là pour faire en sorte que les gens qui veulent aller vers un produit qui est supérieur, un produit qui est plus le fun à conduire, un produit qui est plus silencieux, plus écologique, qui est le véhicule électrique, ben, puissent le faire en ayant une infrastructure de recharge qui est encore mieux, une expérience de recharge ou de refueling qui est encore meilleur. Ça fait que ça, c'est ce qu'on offre. Puis c'est devenu notre différenciateur. Il y a énormément de manufacturiers maintenant à travers le monde. Il y a des gens qui fournissent des logiciels de gestion de réseau. Il y a des opérateurs de réseau. Nous, on est un peu tout. On design les produits, on les fabrique, on design le logiciel. Puis on s'assure que tout ça fasse du sens pour les consommateurs, que ce soit des early adopters, comme moi qui étais prêt, voilà, 15 ans, à me promener avec des mitaines pour aller à Montréal en véhicule électrique, ou des gens un peu plus comme ma femme, comme mes amis, qui, eux, veulent veulent juste se recharger, puis ils sont pas prêts à faire de sacrifices. Fait que c'est vraiment ça notre promesse, puis on offre un des services les plus fiables en Amérique du Nord. On est nés très fiers. C'est ce qui fait que les gens reviennent chez nous, comme tu l'as dit, Antoine, que ce soit des gens dans le B2B, des gens qui veulent acheter des bombes pour avoir des bombes dans leur stationnement, ou des gens qui sont simplement des conducteurs de véhicules électriques, qui veulent une borne à la maison, qui veulent être membre d'un des plus gros réseaux de recharge en Amérique du Nord. Fait qu'on vend vraiment aux deux, mais c'est surtout parce qu'on offre le meilleur service qu'on est devenu un partenaire des deux. Autant les gens reviennent chez nous pour acheter des bornes que les gens utilisent notre borne de recharge résidentielle à la maison à tous les jours et qui accèdent à notre application mobile pour pouvoir se déplacer en Amérique du Nord.
Une vision grandiose, vous êtes littéralement, totalement intégré. C'est assez exceptionnel, mais bon, Louis, de ce que j'ai été capable de voir, Flo, ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve que tu avais qui n'était pas nécessairement, à la base, intimement relié à des bornes de recharge, mais peut-être davantage sur un véhicule que tu aurais aimé construire, je pense, qui allait être électrique. Effectivement, la vision a changé. Peut-être tu peux nous ramener à la genèse de l'organisation. Comment tout ça a commencé à se mettre en place dans ta tête?
Oui, certainement. Écoute, si je peux parler de la genèse, j'aime dire souvent que je suis né entrepreneur. J'ai toujours voulu travailler pour moi parce que j'avais beaucoup d'ambition. J'aime réaliser des choses. Puis j'ai toujours accepté, pas accepté les choses telles qu'elles l'étaient. J'ai jamais aimé l'expression où quand quelqu'un me disait « Louis, ça fait 40 ans que c'est de même, ça va rester de même », ça me parlait pas. Ça fait que très tôt, j'ai voulu travailler pour moi, simplement pour le fait que je voulais travailler pour quelque chose de meaningful, quelque chose qui aurait un impact. J'ai commencé dans les années 97, pour ceux qui s'en rappellent, avec le fameux protocole de Kyoto, à être un petit peu plus conscientisé par rapport au réchauffement climatique, à l'impact qu'on avait, aux objectifs qu'on avait de réduire ces gaz à effet de serre-là d'ici 2050. Puis ça en est devenu une passion à travers les années. Puis en 2003, pour revenir près de ta question, j'ai commencé mes études en génie électrique, encore avec l'idée d'éventuellement ouvrir une entreprise. Puis de 2003 à 2004, j'ai vraiment pas aimé mes études. Je trouvais ça très théorique, très mathématique encore. J'avais le goût de faire des choses. C'est un désir profond. Puis c'est là que j'ai eu l'idée. J'ai dit, je vais fonder un projet de faire quelque chose de concret, fonder un projet de bâtir un véhicule électrique, un peu en ligne avec le véhicule électrique pour aider la lutte contre les changements climatiques. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à être obsédé par le véhicule électrique, Antoine. J'ai vraiment découvert tout un monde, que le véhicule était là depuis 100 ans, que peut-être les batteries lithium-ion pourraient nous amener aussi loin que le véhicule à essence et plus loin. Puis c'est là que mon ADN d'entrepreneur, mon désir d'ouvrir quelque chose commençait à aller dans toutes les directions. Comment je pouvais faire de cette nouvelle passion qui était le véhicule électrique une potentielle entreprise? Ça fait qu'en effet, ça a commencé exactement là avec le véhicule électrique.
Et finalement, ça se transforme avec les bornes de recharge Flo. Une vision grandiose, mais une vision, Louis, qui va nécessiter beaucoup d'argent. On est au milieu des années 2000 à ce moment-là. Si tu veux construire un produit physique, tu veux construire de l'intelligence, tu veux construire du logiciel, tu vas avoir besoin de beaucoup de sous. Tu vas avoir besoin de séduire énormément d'investisseurs. Comment cette idée de borne de recharge est reçue par les anges investisseurs que vous rencontrez, par peut-être les firmes de capital de risque? Quelle est la réponse et comment tu arrives à les séduire que cette vision-là va avoir un changement fondamental sur l'ensemble de la planète?
Très bonne question. Puis je te dirais, à la base, quelle mauvaise idée de faire des produits physiques, du logiciel, puis d'utiliser les deux pour faire du service. Pourquoi je dis quelle mauvaise idée? C'est que le défi est énorme. Puis je continue un peu l'histoire que je racontais tout à l'heure. À mesure que je me posais la question sur le véhicule électrique, je voulais partir une business, mais je savais pas dans quoi. C'est les années qui m'ont donné la réponse que les véhicules électriques s'en venaient, les grands constructeurs allaient finir par avoir des véhicules électriques. Mais ce que les gens avaient peur, c'est où ils allaient se recharger. Les gens avaient le peur de la panne, le range anxiety qu'on dit souvent en anglais. Où est-ce que je vais me brancher? Je vais-tu avoir l'autonomie? Puis c'est là que j'ai vu une opportunité à force de me poser la question sur quoi j'allais faire la business. Puis c'est exactement là que j'ai eu un peu le challenge que tu décris. C'est OK, maintenant c'est bien beau. Je travaillais en optimisation de réseau électrique durant mes études à la Défense nationale. Je voyais comment le logiciel pouvait aider les infrastructures matérielles Puis c'est là que je me suis dit, pourquoi pas déployer l'infrastructure de recharge? À ce moment-là, c'était un peu flou qu'est-ce que c'était, mais des produits qui allaient être connectés au réseau électrique, à la maison, au travail ou sur la route, avec du logiciel qui permettrait surtout de répondre aux besoins des gens, ce qui veut dire où est-ce que je vais me recharger? Est-ce que je vais avoir la capacité de me rendre? Est-ce que je vais avoir la capacité de me brancher? Est-ce que je vais pouvoir payer pour la recharge? Fait que d'amener une couche de logiciel sur le matériel qui allait permettre aux gens vraiment de répondre aux besoins. On oublie le matériel, le logiciel, de répondre aux besoins que si j'embarque dans le véhicule électrique, ben, je vais être capable de me recharger. Je sais que je peux compter sur un réseau de recharge qui est simple, qui est fluide, qui est flow. C'est exactement notre brand. Mais pour faire ça, comme tu l'as dit, de démarrer alors que les bornes existait plus ou moins, il existait des chargeurs, des bornes connectées. Aujourd'hui, tout est connecté. C'était pas si clair que ça, je te dirais, de 2004 à 2007. Mais de démarrer quelque chose qui allait être connecté, puis c'est bien beau d'avoir des produits connectés, mais ça prend des gens après ça pour opérer le réseau. S'assurer de déployer le réseau de recharge, où est-ce qu'on va mettre les bornes, et s'assurer d'opérer le réseau de recharge. Fait que pour revenir à ta question, quand je commençais à pitcher en 2008 le plan d'affaires, j'avais l'intention même de déployer des bornes qu'on posséderait, pas nécessairement des ventes. On était à des années-lumière. De un, les véhicules électriques n'existaient pas, ou quasiment pas. Ils allaient arriver en 2010, 2011 et ainsi de suite. Faire du hardware, ça coûte cher. Ça a une certaine complexité. Les standards sont en train d'être établis, certains standards qui se définissent même encore aujourd'hui. Puis, au niveau logiciel, ben l'ampleur de tout le développement logiciel avec... Ben, Louis, c'est bien beau tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec notre argent? Mais comment vas-tu rentabiliser alors qu'il n'y a pas de véhicule électrique? Fait que vraiment, je dirais, pas un dead end, mais très difficile à vendre un plan d'affaires alors qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de transition énergétique, on parle de 2050, on est en 2008. Comment on peut réussir à faire de l'argent avec ça, Louis, pour qu'on puisse investir chez vous? C'est ce que les investisseurs disaient. Fait que j'ai eu des noms, des centaines de noms. Puis j'arrête là la réponse à ta question, on poursuivra peut-être par la suite.
Parce que en plus de ça, t'es ce qu'on appelle en anglais le terme utilisé un first time founder. C'est-à-dire que t'as pas réussi nécessairement dans le passé d'autres projets de la sorte parce que tu étais très, très jeune à ce moment-là. Donc, ça rend encore une fois le défi encore plus complexe. C'est-à-dire que si quelqu'un le fait quelquefois, peut-être que la confiance va déjà avoir été intégrée avec les investisseurs au vu du CV. Mais si c'était pas le cas, donc finalement, après une centaine de noms, t'arrives, et là, on le voit, on est capable de faire des recherches en ligne, c'est plus de 300 millions, ça serait beaucoup trop d'argent peut-être, mais 300 millions de dollars en financement qui ont été levés. Quel chemin t'as pris pour te rendre là, pour lever cet argent-là et bâtir l'organisation? Et je pense que ce qui serait intéressant d'expliquer à notre audience aujourd'hui, c'est quelle étape on suit. Est-ce qu'on bâtit en même temps le produit physique et le logiciel? Est-ce que un va avant l'autre? Est-ce que la vision lancée aux investisseurs, c'est un travail parallèle qui va se faire entre les deux? C'est difficile, c'est complexe. Je serais curieux de t'entendre sur comment ça s'est déroulé après avoir reçu les fonds, la création de ces différentes lignes d'affaires-là.
Ouais, puis j'aime bien l'autodérision, ça fait que je reviens à ce que tu disais. J'avais aucune crédibilité en 2008. J'avais pas de background. J'étais très jeune, sortais des études en ingénierie, pas des études d'affaires. Fait que pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Le conseil que je donne souvent à des entrepreneurs, si tu as une idée, tu y crois. Faut pas être stupide non plus. Mais si tu y crois tellement, puis tu es prêt à dédier l'énergie pour te rendre à tes fins, go for it. Puis trouve les moyens pour le réaliser. Moi, j'aime dire que je me suis bien entouré, Antoine, pour combler mes faiblesses. Je le fais encore aujourd'hui, puis je pense que c'est la meilleure façon de réussir. Fait que je suis allé avec des gens qui étaient prêts à investir dès le début, puis nous m'aider à comprendre un peu comment faire du financement, lever du capital, aller chercher un petit 25 000 par-ci, un petit 5 000 par-là, un petit 50 000, 100 000, millions qui est devenu avec le temps. Fait qu'avec des coach d'affaires, avec des gens, j'aime bien parler d'Innocente à Montréal, c'est des gens qui, dans le temps, faisaient beaucoup d'accompagnement d'entreprises en jeune démarrage. Fait que j'ai commencé comme ça vraiment à mieux comprendre l'environnement d'affaires, à leverager, à bootstrapper, comme on dit en anglais, pour essayer de me rendre tout le temps au prochain milestone. Je donne un exemple, on a eu un premier financement à l'université pour faire un prototype de borne de recharge rapide. On a réussi à aller chercher des petites bourses, des petits concours sur des idées de plans d'affaires. Je me rappelle encore en 2009, les bourses Pierre Pelladeau, on avait gagné 50 000 $. Quand tu fais juste dépenser ton argent puis t'endetter, 50 000 $ peut paraître beaucoup. Qu'on a leveragé des programmes de subvention pour des entreprises qui sont en incubation, qui ont des idées, qui font de l'aide, des crédits d'aide au Québec. Fait que de fil en aiguille, on est allé chercher chaque dollar pour commencer à générer des proof points, pour générer des ventes, pour générer de l'attraction. Et même s'il n'y avait pas de véhicule électrique, dans ce temps-là, les gens, on parlait beaucoup du lead, comment qu'on allait rendre un bâtiment lead. D'installer quelques bornes pour les véhicules qui s'en venaient, avec des véhicules qui commençaient à être convertis. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est de trouver tous les moyens de montrer une traction. Un peu de hardware, un peu de software, il n'y avait rien qui était parfait là-dedans, mais c'est vraiment comme ça que de fil en aiguille, on a gagné en crédibilité. Les financements sont passés de 25 000, 50 000, 100 000 à 300 000 $ jusqu'à temps qu'on arrive à un certain niveau où est-ce qu'il y avait de la traction. Oh! Puis à partir de 2010-2011, on commençait à avoir des véhicules électriques. On était pionniers, oui, mais on voyait qu'on avait quand même quelque chose de bien. On commençait à sécuriser des gros clients, que ce soit des Hydro-Québec, par exemple, des Rona, Métro, Saint-Hubert, Ivanhoé, Cambridge, certaines villes au Québec. Fait que plusieurs personnes, ce qui nous a permis de se rendre à notre première ronde de financement, je dirais, en 2016, avec la Caisse de dépôt et investissement Québec. Fait que quand même...
Et tu as lancé l'entreprise en quelle année?
En 2009, officiellement fondée. Les plans d'affaires ont commencé en 2008.
Donc, ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que, Louis, j'imagine que tu le vois, tu es dans le milieu des affaires, tu as rencontré des centaines d'investisseurs, tu dois voir des gens qui essaient de lever de l'argent tous les jours. Des fois, les gens sont très pressés de le faire jour 1. Là, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que bien entendu, tu avais besoin de sous pour faire en sorte que ton rêve, que ta vision avance, mais tu es allé étape par étape. Tu as été méthodique, tu n'as pas fait ta série A 3 mois après le lancement de Flow, là.
On a eu des petits financements de joueurs privés, mais la vraie première série A, je veux dire qu'avant ça, c'était du seed, a été faite en 2016 avec la Caisse. Mais c'est important, c'est un bon point que tu mentionnes, c'est important de bien comprendre. Dès le début, moi, je savais que ça allait être une game de long terme. C'est tout ce que j'ai toujours dit. Je me suis tiré un peu dans le pied avec les investisseurs parce que beaucoup d'investisseurs, c'est on veut faire de l'argent maintenant. Mais à force de donner des proof points, je pense que le domaine des clean tech est un peu mieux compris. La transition énergétique est mieux comprise aujourd'hui. Puis le moyen de faire des investissements qui sont durables, de générer de la valeur d'entreprise peut-être avant de générer des profits. Puis c'est ce qui nous a permis de fil en aiguille, de gagner en crédibilité. À notre marché de maturer pour donner, à un moment donné, de donner un peu de substance, c'est bien beau d'avoir de la vision, Louis, mais pour être capable de voir un moment donné que ça va se monétiser, que ça va devenir profitable. Puis c'est ce que tranquillement, on a vu se déceler jusqu'à temps qu'on puisse vraiment sécuriser des partenaires de haut niveau comme la Caisse de dépôt, par exemple, et Investissement Québec en 2016.
Fascinant. Louis, j'aimerais parler un petit peu avec toi des produits hardware. Bon, si on écoute plusieurs investisseurs américains, plusieurs fondateurs, souvent on revient à un ratio de dire que bâtir une entreprise technologique dans le domaine du hardware comparativement au domaine du software, c'est un ratio d'environ 10 sur 1, c'est-à-dire que ça va être 10 fois plus compliqué, le niveau de complexité est plus haut, besoin de plus de financement, des cerveaux qui sont totalement différents également à mettre dans nos équipes. Au final, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est si complexe que ça?
C'est une maudite bonne question, Antoine. Je pense qu'on pourrait passer quelques podcasts sur la question.
Oh,
ben,
OK.
Mais je fais une demi-blague. Je pense que le hardware est complexe. Je pense que le software est complexe. Puis je pense que faire les deux est juste ultra complexe. Puis je sais pas de tirer des fleurs à mon équipe, mais c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais certainement d'une certaine complexité. Dans le sens qu'un produit, une fois qu'il est designé, surtout quand tu commences à en shipper en 40 000, 50 000, 100 000 unités par année, tu peux pas retourner dans le champ, si vous me permettez l'expression, pour régler les problèmes. Il faut que ce soit dans le champ. Puis, tu sais, nos bornes, c'est 10 ans, on a qui approche de presque 15 ans qui ont été déployés. Faut que ça fonctionne, faut que ça donne un bon service. Puis, si tu y vas plus qu'une fois par année ou 2 ans ou 3 ans, ben, tu commences à te manger en frais d'opération. Fait que le challenge, c'est you got to get it right at the beginning. C'est faut que ça fonctionne quand ça sort de l'achat. De l'autre côté, mais c'est plus simple au niveau développement, on dit, parce que un matériel, tu commences, tu y penses, tu le développes, tu t'assures que ça se fabrique, puis tu le shippes. Je caricature. Au niveau logiciel, même aujourd'hui, le logiciel qui opère la première borne qu'on a déployée là, en 2010, par exemple, La première borne, le logiciel a changé énormément sur la borne, le logiciel embarqué, firmware pour ceux-là qui savent de quoi que je parle. Puis le logiciel de gestion, le logiciel cloud qu'on appelle aujourd'hui, lui a changé énormément. Il était simple au début, il était basic. Il s'est complexifié, le paiement a changé. Les transactions qu'on a eu à faire ont changé. Aujourd'hui, on donne accès à nos bornes à n'importe quel OEM, manufacturier automobile, même plusieurs EV drivers qui vont accéder avec l'application mobile de nos compétiteurs. Donc, ça fait que ça a énormément changé. Fait que je ferai attention de dire qu'un est plus complexe que l'autre. Ils sont toutes les deux complexes. Il y en a un qu'il faut absolument qu'il soit fiable, durable, puis qu'il dure longtemps dans le champ, si je peux me permettre, pour aller monétiser à un moment donné le footprint que tu as quand on parle d'un réseau. Puis le logiciel va continuellement évoluer. Ça veut dire que ce que tu as shippé la première fois, ce qui a permis d'opérer le premier hardware, doit évoluer, puis doit évoluer d'une façon qui fait du sens, qui soit scalable. Parce qu'à un moment donné, au début, on avait juste 10 users. Aujourd'hui, on en a des centaines de milliers, bientôt millions. Fait qu'il faut que notre système soit capable de scaler. Fait que moi, je pense que c'est deux solitudes, deux choses ultra complexes. Puis je pense que ce qu'on fait de bien, ce qui est un challenge, je pense, pour n'importe quelle industrie qui manage du matériel et du logiciel, c'est d'être capable de bien comprendre comment marier les deux, souvent à la frontière du IoT, pour opérer un réseau comme nous. Mais définitivement, je dirais pas que le hardware est plus complexe ou le software est plus complexe. Je dirais que le hardware, des fois, comprend pas le software et le software comprend pas le hardware.
Mais j'imagine que c'est une barrière à l'entrée que peu de joueurs sont prêts à aller s'intégrer. C'est-à-dire que ça doit faire en sorte que vous êtes un des seuls quasiment dans votre catégorie à prendre autant de parts de marché parce que là, vous rentrez dans des niveaux de complexité excessivement élevés. D'avoir une empreinte aussi sophistiquée autant au niveau logiciel que matériel. Louis, corrige-moi si je me trompe, il doit pas avoir énormément de joueurs qui veulent s'aventurer là-dedans au moment où on se parle, dans votre catégorie, celle des bornes électriques.
Oui, puis tantôt tu parlais d'investisseurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent investir dans le software que dans le hardware parce que le hardware, souvent, va nécessiter beaucoup de capex, une usine, des coûts qui sont pas nécessaires dans le logiciel qui attire moins les investisseurs. Fait que tu as raison parce que tu dis on a énormément de compétiteurs. Il y en a qui sont ce qu'on appelle verticalement intégrés, qui font aussi un peu de tout, qui vont faire le hardware, le software, ils vont payer le service. Puis même ça, nous, on le fait, mais on essaie de faire ce qui est valeur ajoutée. Je donne un exemple, si tu me permets. On manufacture nos produits, mais je fais pas de die casting d'aluminium. C'est pas moi qui fais la mécanique comme telle. Je fais pas de circuits imprimés. On les achète de gens qui ne font que ça dans leur vie. On les assemble, on contrôle la qualité, puis on les ship aux clients. Fait qu'on décide aussi qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. Puis je pense c'est d'être brillant, de choisir, de bâtir de la différenciation, de focusser sur la valeur que tu ajoutes, mais de faire des partenariats avec des gens qui eux, c'est leur baseball de faire du die casting d'aluminium ou des circuits imprimés. Mais pour revenir à ce que tu disais, notre différenciateur, c'est de contrôler l'expérience, c'est d'offrir un bon service aux conducteurs de véhicules électriques, c'est de faire en sorte tantôt que les Canadian Tire, par exemple, qui vont nous acheter des bornes, sont satisfaits parce qu'on satisfait leurs clients là, qui viennent dans leur magasin. Puis la promesse qu'on fait à nos clients, c'est que s'il y a un problème matériel, s'il y a un problème logiciel, s'il y a un problème de service, t'as juste un coup à serrer, one neck to choke. Dans le sens que nous, on finger point pas, on pointe pas du doigt un autre manufacturier, un autre joueur. C'est nos problèmes parce qu'on offre tout. Fait que c'est un bless and a curse, c'est une bénédiction puis une damnation parce que c'est plus compliqué. Mais ce qui était plus compliqué en 2007, 2008, 2009, ce qui était difficile à vendre, aujourd'hui est devenu notre différenciateur. Aujourd'hui est venu quelque chose qu'on master bien dans un marché qui aujourd'hui n'a plus à être démontré, qui est en forte accélération. Puis aujourd'hui, il reconnaît que ce qui est le plus important pour les réseaux de recharge, c'est la fiabilité, c'est le service. Puis il n'y a pas beaucoup de noms une fois que tu regardes quels joueurs qui peuvent livrer ça. Puis c'est ce qui fait qu'on est en croissance année après année.
Donc, c'est une vision grandiose, mais si on regarde le tout, au final, sur le très long terme, en bon joueur d'échecs que tu es, c'était quasiment la seule option possible. Là. Parce que si on veut absolument la fiabilité et être le joueur dominant dans le marché, il faut contrôler l'équation complète de ce qui se déroule pour la borne de recharge, que ce soit au niveau de l'application qu'au niveau du matériel, de ce que je comprends bien.
Oui, puis pour revenir à tantôt, quand je disais que c'était un petit peu difficile à vendre au début, moi, j'ai toujours été très transparent. On est une entreprise de long terme, ça va prendre du temps Fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, par définition, ils nous ont dit non, mais ils nous auraient dit non parce qu'ils ont un retour, ils veulent un retour sur 3 ans, sur 5 ans. Il y en a qui te disent 7 ans, c'est pas mal à la limite. Mais nous, on était une entreprise qui croyait en ça. Ça fait qu'on vendait notre salade, les gens ne croyaient pas au début, je vais dire ça comme ça. Puis plus le temps avance, plus les gens voient qu'on livre la marchandise, qu'on livre la croissance, qu'on contrôle l'expérience, puis qu'on le fait surtout d'une manière qui est efficiente. Et c'est bien le fun d'avoir des bornes qui sont fiables, mais si tu as besoin d'avoir un ingénieur dans chaque borne, ça te coûte cher à opérer. Versus aujourd'hui, la façon qu'on le fait, puis on l'optimise à toutes les années, ben on est bien capable de le faire. Fait que c'est vraiment cette vision long terme-là, cette transparence avec les investisseurs qui, peut-être pendant quelques années, on est allé voir la Caisse, on est allé voir Investissement Québec, à un moment donné, ils ont compris notre proposition, ils veulent investir aussi dans la transition énergétique, se sont donné des mandats clairs là-dedans, fait qu'ils comprennent bien la business qu'on est puis qu'on est capable de livrer. Fait qu'ils ont épousé notre modèle, ils ont vu notre croissance, même si des fois c'est une croissance qui est un peu moins hyper croissance que des compagnies qui sont dans le software, qui vont gagner des millions de users à tous les mois. Nous, on est une entreprise un peu différente, beaucoup d'infrastructures, avec un nouveau marché qui est de plus en plus un marché en croissance. Mais je pense que ça nous a bien servi de toujours livrer la marchandise puis d'expliquer l'histoire qu'on n'était pas un overnight success, mais qu'on est une entreprise qui allait croître année après année pendant des dizaines d'années.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et bon, on a parlé de la construction, de la conception du produit. Parlons de croissance un peu maintenant, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est près de 100 000 bornes installées en Amérique du Nord. Félicitations, c'est un chiffre assez exceptionnel. Quel a été le mécanisme principal pour aller chercher ces clients-là pour atteindre ce type de distribution? 100 000 bornes, ça veut dire qu'on a beaucoup de clients, ça veut dire qu'on est connu d'un grand nombre de personnes. Est-ce qu'on a commencé dès le départ à travailler avec des revendeurs comme Canadian Tire que tu as mentionné plus tôt? Est-ce qu'on a ciblé directement le consommateur? Je serais curieux de t'entendre un petit peu sur le volet développement d'affaires qui s'est déroulé chez Flo.
Oui, définitivement. Ben, merci pour les bons mots sur la croissance. C'est 100 000, c'est un beau chiffre. Ce qui est encore plus déstabilisant ou qui donne le vertige, c'est qu'à tous les 18 mois, on double. Dans 18 mois, on devrait parler d'à peu près 200 000. C'est à peu près la croissance dans laquelle on est. Plus ou moins, là, on est pas mal dans les ratios depuis des années. Fait que je pense, on parle souvent, tu sais, des bornes, on parle du manufacturier, on parle du logiciel. Nous, on se voit vraiment comme un réseau. Puis moi, ce que je crois, où est-ce que l'entreprise va vraiment atteindre son full potentiel, c'est quand on atteint ce qu'on appelle le network effect. Quand le réseau vraiment s'auto-alimente, quand chacun des membres, chacun des points de recharge donne plus de valeur à tout le monde. C'est vraiment ça qu'on essaie de créer. Je pense qu'il nous aide beaucoup. Au début, je caricature Antoine, c'est que si on vend des bornes qui sont durables, ben les gens vont venir acheter des bornes qui sont durables. Quand on offre un service qui est fiable, ben les gens vont revenir acheter des bornes pour des bornes qui sont fiables. Quand je suis un conducteur de véhicule électrique qui utilise un réseau qui offre une super expérience, fait que là, je suis en train de te parler de besoins qui gradent avec les années. Ben moi, je vais tout le temps utiliser ce réseau-là. Je n'irai pas utiliser les autres qui fonctionnent pas ou que j'ai l'impression que c'est toujours difficile de me stationner ou ils fonctionnent jamais, le paiement fonctionne pas bien. Quand je regarde l'application mobile, je me dirige vers des bornes qui finalement sont utilisées ou sont pas connectées. Tout ça, à travers les années, on offre une meilleure expérience. C'est ce qui fait que si je t'ai bien servi, Antoine, en 2010, puis en 2012, puis en 2015, puis en 2018, probablement que tu es avec nous depuis longtemps, puis tu vas rester avec nous pendant les 30 prochaines années. Au même titre qu'un Canadian Tire, pour pas le renommer encore une fois, s'ils nous ont acheté une, 10, 100, 500 bornes, puis que ça fonctionne bien, puis ils vont en acheter encore. Et quand on parle d'hypercroissance, je pense souvent que si on donne notre promesse à tous les conducteurs de véhicules électriques, si chaque fois que quelqu'un achète une borne, on offre un bon service, ben ces gens-là reviennent année après année après année. Puis on est capable de le démontrer d'une façon qui est très claire. Non seulement ça, mais ils vont parler. Toi, tu vas parler, si ça fait 10 ans ou 5 ans que tu conduis un véhicule électrique, à tout le monde quand c'est le temps d'acheter une borne à la maison. Ou si quelqu'un dit, j'ai eu une mauvaise expérience de recharge, tu vas leur dire, ben c'est-tu avec Flo? Il va dire non. Il va dire, c'est quoi ce Flo? Puis tu vas lui parler. Fait que c'est des choses qui, à mesure que le marché croît de manière exponentielle, ben il y a un brand qui se bâtit, oui, puis il y a du word of mouth. Autant qu'on peut faire du marketing, le meilleur marketing qu'on peut faire, c'est que si vous utilisez notre réseau, si vous achetez nos bornes, si vous utilisez notre service, ben vous risquez de le faire encore et encore. Puis je le dis souvent, puis ça, c'est ma plus grande fierté ou notre plus grande fierté, on a perdu plein des deals, on a perdu plein des RFP. Mais les gens, souvent, après 2, après 3, après 4 ans, ne sont pas satisfaits du service qu'ils ont, pas satisfaits des produits. Ils ont été un produit moins cher, en plastique, par exemple, ou un produit moins fiable. Ils ont été chercher quelque chose qui était le prix, puis finalement, ils voulaient des bornes pendant 10 ans qui fonctionnent bien. Ça fait qu'ils reviennent chez nous. Parle-nous donc de ta fiabilité, parle-nous donc de ta garantie de performance, de ton uptime. Puis c'est là qu'on a un client mieux éduqué, qui là, il est prêt à payer le prix, puis on est très compétitif, je te rassure, est prêt à payer le prix pour avoir le service que finalement il voulait. Puis c'est ce qui fait, selon moi, et selon ce qu'on voit dans les chiffres, les KPI qu'on suit, que tout ça s'emballe, que de plus en plus, on se différencie des compétiteurs, que de plus en plus, c'est pas le prix de la borne, mais le prix du le total cost of ownership. Si ça me coûte X au début, que ça me coûte Y à chaque année opérée, puis qu'avec Flo, je peux l'opérer sur 10, sur 15 ans, ben finalement, les gens vont revenir chez nous.
Puis tu as parlé de network effect. On s'entend, tu es dans une catégorie qui est quand même une prime aux vainqueurs. Est-ce que vous avez été capable d'entourer un petit peu ce nombre de bornes-là ou ce nombre de clients que vous allez devoir atteindre pour devenir quasiment, pas invincible, mais très difficile à tasser, on pourrait dire ça en termes de joueurs. Parce que c'est souvent ce qui arrive quand une technologie est tellement forte et qu'elle a tellement de pénétration, tellement d'implantation. On pourrait penser à des Uber de ce monde ou à des Airbnb, ils deviennent quasiment impossibles à déplacer. Vous devez quand même commencer à prendre des parts de marché assez importantes dans ce que vous faites là.
Je veux dire, ça dépend toujours. Le network effect, il y a de la valeur dans la concentration. Je parle souvent d'être relevant. Il faut, c'est bien beau d'avoir le meilleur service au monde, mais si tu as juste une borne, ah bien beau être fiable, tu n'es pas relevant.
Bien sûr.
Je dirais le network effect est de plus en plus vrai dans les zones qui sont denses. Au Québec, on est très dense. On a une très forte part de marché. Au Canada, on a des très fortes parts de marché. Puis aux États-Unis, on est un peu moins important. On est en croissance dans certains États. Fait que quand je parle de network effect, il y a des choses qu'on peut faire au Québec et au Canada qu'on peut pas faire ailleurs. Il y a des choses qu'on peut juste faire au Québec. Il y a des choses qu'on peut peut-être juste faire à Vancouver. Mais c'est de créer de la valeur au client qui fait qu'il y a le goût de revenir. Puis, on est dans une industrie où est-ce que je pense pas qu'il va y avoir un seul gagnant. Je pense plus que les joueurs qui vont être ouverts, qui vont s'assurer d'offrir un bon service parce qu'on est au croisement, je dirais, du transport, hein, des véhicules,
bien sûr.
Des manufacturiers automobiles. On est au croisement de tous les fournisseurs d'énergie, les Hydro-Québec, les BC Hydro, les Green Mountain Power Vermont, les Con Edison à New York. On est au croisement de tout ce qui est real estate, tout ce qui est parking. On est vraiment au croisement de plusieurs industries. Puis je pense que où est-ce qu'on a une chance d'être un relevant player, que ce soit en ayant 10, 15, 20% des parts de marché en Amérique du Nord. Si on offre un bon service, si c'est simple pour nous, il n'y a pas de borne de flow sur la route, mais il y en a peut-être un de nos compétiteurs, puis que nous, on le dirige plus facilement vers le compétiteur, puis que le compétiteur, lui, il veut garder, il va arriver à ces cas de figure-là. Hein, on est tous un peu répartis sur le territoire. Puis je pense qu'il y a de la valeur à toujours être fidèle à sa promesse, de toujours bien collaborer avec tous les joueurs. Hein. On n'a même pas parlé d'Apple, de Google, qui ont toutes les maps API, qui ont toutes les cartes puis qui gèrent les données. Comment qu'on est un joueur à fournir la valeur ajoutée qu'on offre, l'expérience de recharge, puis qu'on laisse la place aux manufacturiers automobiles, qu'on laisse la place à nos compétiteurs, qu'on laisse la place aux big tech pour être en mesure que les gens reviennent toujours chez nous pour la promesse d'une bonne recharge.
C'est fascinant tout ça. J'aimerais peut-être t'entendre ici, Louis, un petit peu sur ce qu'on pourrait considérer comme de l'ingénierie financière, modèle d'affaires, bref, de flow en général. Bien entendu, il va y avoir des ventes de bornes. Jusqu'où on est capable de pousser le modèle d'affaires? Tu parles de toute la partie logicielle également derrière. Est-ce qu'il y a de la monétisation qui va se faire également au niveau du logiciel? Est-ce que la majeure partie de la monétisation, se fait au niveau des ventes de bornes? Comment vous avez envisagé un petit peu le tout sur le moyen terme pour l'ingénierie du modèle d'affaires?
Ouais. J'aime le faire le parallèle avec un réseau de télécommunications où j'aime dire des choses, Antoine, comme tu sais, dans 100 ans, on le pousse dans 100 ans, probablement avant, il ne s'en vendra pas tant que ça de bornes. Les bornes vont toutes être installées. Je caricature. Fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la course à déployer un réseau. Puis malheureusement, je dirais, dans les 10-15 dernières années, il y a beaucoup de bornes qui ont été déployées qui ont dû être remplacées parce qu'elles n'étaient pas fiables. Il y a des joueurs qui sont rentrés, ils voulaient juste faire un coup d'argent puis qui ont disparu. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Mais quand on parle de notre modèle d'affaires, nous, qui est sur le long terme, c'est qu'en ce moment, on fait une grosse partie de notre profit qui est basée principalement sur les bornes de recharge. Fait qu'on fait des revenus sur les bornes, une marge sur les bornes de recharge. Les bornes qu'on vend en ce moment viennent avec un contrat de service, si vous me permettez, qui fait en sorte qu'on opère les bornes pour offrir une certaine prestation de service. Puis on fait un profit sur là-dessus. Après ça, il y a du transactionnel sur les bornes payantes. On fait un profit là-dessus. Dans certaines régions, on va aller monétiser certains revenus comme la gestion énergétique. Il y a des carbon credits aussi qui se fait. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'au début, le déploiement du réseau, on le fait beaucoup en vendant des bornes et en les opérant. On appelle ça le modèle « sales and operate ». Récemment, on a annoncé un déploiement d'à peu près 350 millions parce qu'on est allé chercher 220 millions à la Banque d'infrastructures canadiennes pour déployer nos propres bornes de recharge. La différence, c'est qu'on les vend pas, ces bornes-là, on les possède. We own and operate, c'est ça qu'on parle. Fait qu'on prend le risque de déployer le capital. Hein, je parlais des antennes de télécommunications tantôt. On déploie le réseau, puis on connaît où est-ce qu'il faut déployer les bornes. À toutes les données qu'on a recueillies au travers de ces années-là, on a une meilleure compréhension. Fait que parfois, on vend et on opère. Des fois, on own and operate. Ça veut dire qu'on prend le risque du capital, mais on va aller chercher 100 % des revenus transactionnels, par exemple. Puis on croit assez en nos données pour dire qu'on va aller les positionner en général où est-ce que ça fait du sens pour le véhicule électrique, pour le conducteur, puis pour nous en termes de rentabilité. Fait que ce que je suis en train de t'expliquer, Antoine, c'est qu'on a vendu beaucoup de bornes, on génère des revenus là-dessus, puis il y a un certain volume, un certain tipping point que ça prend pour devenir profitable là-dedans. Mais plus les années passent, plus c'est des revenus de réseau, des revenus d'utilisation. Dans certains cas, on va posséder des bornes de recharge. Dans certains cas, on imagine bien qu'on va... Il y en a qui l'ont déjà fait à une certaine échelle, mais étant donné qu'on a une application mobile, étant donné qu'on a du real estate sur des stationnements, on peut aller chercher des revenus de simplement de médias, hein, d'avoir des écrans aux bornes de recharge là-dessus. Les revenus de gestion énergétique, pour moi, le véhicule électrique est la plus grande menace au réseau électrique, mais le plus grand aide. On peut juste, quand Hydro-Québec, par exemple, manquerait d'électricité en plein hiver, dire aux centaines de milliers bientôt de véhicules qu'il va avoir, ben, ralentissez la recharge. Avant même de dire que la batterie va retourner au réseau, ralentir la recharge, puis il y a une certaine valeur. Il y a déjà des gens qui nous paient pour ça en Amérique du Nord. Puis je pense que ça va être partout, ça, dans le monde. Mais en ce moment, on arrive à peine à monétiser ce genre de valeur-là. Puis il y a toutes sortes d'autres, ce qu'on appelle des revenus de network ou le long tail of revenue qu'on peut ajouter définitivement avec le futur. J'aime bien donner Apple comme exemple. Au début, ils vendaient des téléphones, du caricature. Aujourd'hui, ils font beaucoup d'argent avec toutes leurs applications, toutes leurs App Store, toutes les valeurs ajoutées. Fait que c'est le long tail of application, si je peux me permettre. Fait on est beaucoup là-dedans, nous, au niveau hardware, puis on a évolué beaucoup avec le service dans les 15 dernières années. Puis aujourd'hui, on voit les network revenus de plus en plus venir aider notre modèle d'affaires, puis vraiment faire en sorte que non seulement on a une belle mission, puis on lutte contre les changements climatiques, mais aussi on a une belle machine aussi à faire du capital, à faire de l'argent, puis pour pouvoir emballer le tout, si vous me permettez. Plus qu'on fait d'argent, plus on peut déployer de bornes. Plus on déploie de bornes, plus on va faire de l'argent. Fait que ça permet à des investisseurs de continuer à nous supporter puis de voir que finalement, le business model, qui était un business model de long terme, commence à donner des petits.
Le fameux flywheel est en place. Clairement, on peut le voir ici. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que les revenus présents ne seront pas nécessairement les revenus futurs en termes de pourcentage dans les états financiers à la fin de la journée. Ça fait énormément de sens et c'est très intéressant d'en savoir un petit peu plus. Peut-être maintenant, parlons un petit peu du volet expansion. Tu as mentionné un point qui est intéressant, qui m'a marqué. Le network effect a un impact quand on parle de concentration. Donc, clairement, les marchés où est-ce que vous êtes très concentré, que beaucoup de bornes, bien entendu, il peut y avoir certains avantages qui se mettent en place. Il y a d'autres marchés où est-ce qu'il y a un peu moins de concentration, que vous n'aurez pas le même impact. Comment ça se déroule, pénétrer le marché américain? Bien entendu, il y a beaucoup de capital qui est déployé pour des organisations comme la vôtre. On est souvent un petit peu plus généreux aux États-Unis sur le capital. On peut aller un petit peu plus vite, ça fait partie de la culture. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce que c'est dur d'essayer de percer le marché au sud de la frontière?
Ben, définitivement, je dirais que ça a toujours été un défi, je pense, pour beaucoup de compagnies québécoises, canadiennes. Nous, ça fait plus que 5 ans. On a commencé en 2018. Fait que c'est challengeant, c'est différent. Il y a des requis différents, même si on parle d'un pays. C'est 50 pays, les États-Unis.
Bien sûr.
Puis, il y a des États qui sont EV-friendly, qui ont des véhicules électriques. Il y a des États qui sont pas vraiment intéressants. Quand on regarde la map des États-Unis, nous, on va focusser beaucoup, par exemple, sur le nord-est, sur la côte ouest, où est-ce que on a vraiment des politiques en place, des incitatifs en place pour vraiment des États qui croient à la transition énergétique, au changement climatique, puis qui ont mis en place les mesures pour justement nous permettre d'avoir les économies d'échelle, puis de faire que le véhicule électrique, la recharge deviennent des modèles rentables qui aident à supporter les objectifs de gaz à effet de serre. Et quand on regarde les États-Unis, le défi, c'est que c'est un marché qui est différent. Aujourd'hui, après 5 ans, je peux te dire, Antoine, on le connaît bien, on a une super belle traction. Parce que l'avantage qu'on a, je crois, c'est qu'il y a un besoin fondamental, puis je pense qu'il est partout dans le monde, c'est d'être capable de se recharger avec une bonne expérience. Ça prend des bons produits, ça prend des bons logiciels, ça prend une culture d'entreprise qui veut offrir un bon service, one neck to choke, qui pointe pas du doigt, que ce soit le compétiteur, le client, le conducteur de véhicule électrique, le véhicule, qui s'assure que ça fonctionne. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a bien fait au Canada. C'est l'ingénierie québécoise de son pur brut, si tu me permets, et qui fonctionne très bien au sud de la frontière. Même, je te dirais, ça fonctionne quasiment mieux parce que au Canada, on était dans les pionniers. C'est juste ça qu'ils connaissent quasiment. C'est fiable. Pour la plupart, c'est ça parce qu'on a des bonnes parts de marché. Aux États-Unis, là, je te cite une étude là, dans le Bay Area, là, dans l'épicentre, une borne sur 4 ne fonctionnait pas durant une étude qu'ils ont faite. Une borne sur 4, c'est 25% de downtime. Wow. Aujourd'hui, on est à 98% et plus versus des 75% et moins. Fait que le besoin pour notre service, si je peux me permettre, produits logiciels et services, il est énorme aux États-Unis. Fait qu'il faut se faire connaître. Il y a un défi. Ça fait 5 ans qu'on se fait connaître. On commence à être pas si pire. Pas si pire au tel que des General Motors nous choisissent pour déployer 40 000 bornes de recharge dans tous les États américains. Ce qui est assez énorme. Un des plus gros déploiements en Amérique du Nord depuis le début de notre industrie. Mais c'est tout pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on prêche dans le désert depuis longtemps, d'offrir une belle qualité de service qui se traduit avec un service fiable, des logiciels fiables, des bornes qui sont durables. Aujourd'hui, il y a un besoin pour ça. C'est pas facile de s'improviser. Ça prend de l'expérience. On bâtit les produits de nouvelle génération en fonction de l'expérience passée. On rend du logiciel pour que ce soit moins human dependent, mais que le réseau soit plus efficient à opérer. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien, Antoine. Ça fait que plus les années arrivent, oui, c'est un défi aller sur les États-Unis. Mais à la base, ton différenciateur, ce qui a de la valeur est reconnu et de plus en plus demandé, ben, comme je disais tantôt, ça fait un peu boule de neige.
Et j'imagine que ce déploiement a dû débuter avec une approche un petit peu plus via ce qu'on appelle des channel partners comme General Motors que tu as mentionné. J'imagine que ça doit être plus rapide et plus intelligent de commencer comme ça que de se déployer à la masse et d'investir des millions et des millions et des millions en publicité. Souvent, c'est le défi quand on est un brand qui s'adresse aux consommateurs. C'est très, très dispendieux. Aller chercher ses parts de marché, est-ce qu'elle était là, la stratégie un petit peu de commencer avec ses fameux partenaires pour commencer l'intégration et tranquillement peut-être attaquer davantage le consommateur?
Ben, je dirais c'est un mix. Quand on commence dans un marché, souvent, vu qu'on n'est pas connu, aller travailler avec des channels, des distributeurs, c'est un peu difficile.
Mm-hmm.
Parce qu'ils nous connaissent pas, puis eux ce qu'ils veulent, c'est rendre le produit disponible. Ils veulent qu'il y ait de la demande pour le produit. Ça fait que s'il n'y a pas de demande, ça fonctionne moins bien. Versus si on prend nos propres équipes de vente, par exemple, ce qu'on a fait à New York et Los Angeles, aller voir, ont-ils les mêmes problèmes que ce qu'on a réglé à Montréal, à Toronto, à Vancouver, par exemple. Puis la réalité, c'est qu'en 2017-2018, quand on a commencé, c'était le cas. Fait qu'on leur a offert de faire un projet pilote, essayer nos produits. Écoute, ça, quand je dis que ça fait boule de neige, c'est là que ça part. Et à partir du moment, par exemple, prenons New York, par exemple. À partir du moment que tu commences à déployer à New York, avec la ville de New York, là, si vous allez vous promener à Manhattan dans les 5 arrondissements, que ce soit Brooklyn, Manhattan ou autre, vous allez voir des bons flots. Fait que le point, c'est qu'on a été capable de sécuriser la plus grande ville en Amérique du Nord, d'avoir la crédibilité de faire avec nos équipes, mais avec des gens qui comprenaient le pain de la recharge. Fait qu'on a été capable d'avoir une discussion intelligente avec eux, ils nous ont sélectionnés. Puis par la suite, quand on commence à avoir les gens qui reconnaissent le service qu'on offre, ben là, c'est plus facile d'aller travailler avec des distributeurs, des channels qui disent « OK, il y a de la demande dans la région, nous, on est capable de multiplier, de rendre le produit disponible, de travailler avec tous les general contractors, les électriciens qui vont être en mesure, eux, d'installer les produits. » Fait qu'il faut comme créer la demande avec la force directe. Puis à mesure que le marché mature, ou plutôt que la reconnaissance de ton brand, de ta promesse est reconnue, ben là, tranquillement, aller multiplier ta force de vente avec des gens qui reconnaissent le produit que tu offres.
Non, c'est excessivement stratégique. Très intéressant. Un autre pilier intéressant dans votre organisation, Louis, c'est bien entendu Volet Culture, 550 employés qui travaillent pour Flo au moment où on se parle, une mission qui est forte. Très souvent, pour mobiliser autant de gens vers une mission commune, la mission doit porter, la mission doit être long terme, la mission doit être grandiose, on veut et on se doit de changer le monde. Je pense que c'est un petit peu comme ça que vous voyez le tout chez Flo. Selon toi, avec l'expérience que tu en as à faire, t'en côtoies des entrepreneurs, t'en côtoies des investisseurs, est-ce que pour mobiliser les gens à vouloir littéralement changer le monde, on se doit d'avoir une mission de la sorte? Est-ce que c'est essentiel pour y arriver? Est-ce qu'une organisation qui n'a pas nécessairement cette mission de pouvoir avoir un impact sur le changement climatique, la santé, bref, tout ce qui est en train de se dérouler peut avoir autant d'impact qu'une organisation qui, comme la vôtre, est capable d'avoir un changement qui est significatif?
C'est une très bonne question, Antoine. Je pense qu'à la base, plusieurs missions peuvent parler à différentes personnes.
Bien sûr.
Je pense que c'est important d'avoir une mission claire. Je pense qu'on est un petit peu chanceux d'avoir une mission comme la nôtre. Je pense qu'elle parle à énormément de gens aujourd'hui, même de plusieurs générations. Les gens aiment savoir qu'ils se lèvent le matin pour faire quelque chose qui a un impact, qui a un impact pour leurs enfants, qui a un impact sur la planète. Ça fait que ça, c'est, on a un beau produit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui parle aux gens, surtout, puis je te dirais, c'est ma plus grande fierté, la culture de l'entreprise, mais ce qui a un impact aujourd'hui, puis je pense que c'est encore plus vrai dans des moments de pénurie de main-d'œuvre, les gens ont le choix d'aller travailler où est-ce qu'ils veulent. Fait que les gens ont le choix de travailler pour la mission qu'ils veulent.
Bien sûr.
Une fois qu'on a dit ça, la mission, c'est une chose. Moi, j'ai toujours dit, la mission, c'est pas une destination, la mission, c'est une direction. Fait que c'est très important le why. Pourquoi qu'on se lève le matin? Puis ça, tout le monde a eu, je pense beaucoup d'entrepreneurs l'ont bien fait dans les 40 dernières années, d'avoir l'impact, puis tout le monde dit changer le monde. C'est assez rendu vanille dans le marché. Mais je pense que beaucoup ont négligé ce que j'appelle, ce qui est encore plus important ou aussi important, le how. Comment qu'on change le monde? Parce que c'est bien beau de se rendre à une destination, mais si tu te rends à la destination, finalement, en pilant sur des gens, en pilant sur tes employés, en ne respectant pas bien des choses, tu n'améliores pas le monde. Fait que tu as vendu une fausse idée, un faux changement du monde. Moi, je dis souvent que si on veut changer le monde, faut se diriger vers où est-ce qu'on veut aller, ma retraite en 2050, où est-ce qu'on va avoir finalement atteint nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais surtout, on doit le faire au quotidien en ayant un impact. Je dis souvent, tu sais, on dit à nos enfants, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est la pire phrase à donner. Tes enfants vont faire ce que tu fais. Je suis pas en train de parler de mes employés comme des enfants. Je suis en train de dire que si on veut vraiment avoir un impact sur la planète, c'est nos comportements qu'il faut changer. C'est notre quotidien qu'on doit voir différent. Puis c'est quelque chose qui fait très partie de la culture de Flow. Je dis pas qu'on travaille pas fort, on travaille fort en, je dirais des mauvais mots, mais vu qu'on est dans un podcast, je le dirais pas. On travaille très fort. Changer le monde, c'est très difficile. Mais on peut le faire d'une manière humaine où est-ce qu'on peut avoir un certain équilibre. J'appelle ça la performance durable. Puis j'ai un drôle d'équilibre, Antoine, je peux te le dire. Je travaille très fort énormément, ma gang aussi. Mais comment qu'on peut s'aider entre collègues d'avoir une vie qui est plus balancée, une vie qui est plus flexible? Moi, je dis souvent, je vais avoir réussi si quand je prends ma retraite en 25 ans, je l'espère, je les oublierai jamais. Mes enfants vont avoir le goût de changer le monde comme je l'ai fait, que ce soit chez Flo ou ailleurs, parce qu'ils vont m'avoir vu faire, ils vont m'avoir vu attentif, vont m'avoir vu prendre du temps avec eux. Ils m'auront pas vu divorcer ma femme parce que je suis pas capable de m'occuper de mon mariage, je suis pas capable de m'occuper de mes enfants, mais je vais avoir trouvé un temps, malgré le fait que c'est très exigeant, de développer une entreprise, d'avoir du plaisir à développer une entreprise, à réaliser les grands milestones, mais sans pour autant hypothéquer le quotidien. Fait que c'est très challengeant. Je dis souvent, désolé encore des anglicistes pour tout le monde, I'm gonna die trying. Probablement que je vais juste m'améliorer. J'aurai jamais la perfection. Mais pour moi, c'est une partie intégrante de notre culture. Puis ma plus grande fierté, parce que je pense qu'on le vit réellement. Les 500, 50, 60, 70 personnes, j'en perds le fil. On le vit vraiment ça. Puis on s'aide à s'auto-régulariser. On est vraiment dans ce why et ce how-là. Puis selon moi, c'est des entreprises comme ça qui vont gagner dans le marché d'aujourd'hui.
C'est clair. C'est clair, il y a Claude Auchu, président d'LG2, qui était venu sur le podcast il y a quelques mois de ça, qui nous disait, avant, on était dans une guerre de clients, on est passé par la suite dans une guerre d'employés, et maintenant, on va devenir, ou plutôt, on va opérer dans une guerre d'impact. C'est-à-dire, les organisations vont devoir se battre pour le plus bel impact. C'est ce qui va faire changer un employé d'une entreprise à une autre. C'est ce qui va faire changer un client d'une entreprise à une autre, d'un fournisseur à un autre. Donc, je crois que vous le vivez bien et j'imagine que ça doit avoir un impact significatif dans vos rangs. Louis, peut-être pour terminer avant des petites questions personnelles, le futur de l'entreprise, 12, 24, 36 prochains mois, Flo s'en va où?
En fait, une croissance énorme sur le marché américain. Je dirais, juste pour les gens d'affaires qui nous écoutent, profitabilité, on a pas très, très près
c'est
de la profitabilité.
C'est sexy en ce moment.
Enfin, après, ouais, les investisseurs le veulent, mais enfin, on est capable de le reacher, l'atteindre parce qu'il y a du volume. Puis je te dirais, ce qui m'excite beaucoup, nouveaux produits. On a annoncé Flow Ultra, recharge ultra rapide jusqu'à 500 kilowatts. Il n'y a aucun véhicule personnel qui fait ça. Aujourd'hui, le plus, c'est pas mal 300, 320. Fait qu'on arrive vraiment avec quelque chose de différencié. C'est du matériel, mais ça va aider énormément l'expérience pour les gens. On a d'autres annonces qui s'en viennent cette année qui vont être très intéressantes, là, des grands partenariats, des grands déploiements. Fait que ça m'excite énormément, Antoine. Je te dirais, on va continuer notre croissance. Toujours avec la même vision, avec la même proposition de valeur, les mêmes différenciateurs. Ça fait que ça va être très intéressant. Moi, je suis bien content d'être assis dans ma vie pour vivre les 36 prochains.
Fantastique. Et bon, petite question personnelle, Louis. Lecture, beaucoup de gens d'affaires viennent sur le podcast, nous partagent leurs meilleures lectures, les lectures qui ont impacté leur quotidien, impacté leur vision de voir les choses. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre elles que tu pourrais partager avec notre audience?
Oui, certainement. Dans les trois derniers mois, j'ai lu deux livres qui m'ont intéressé beaucoup. Je n'ai lu plus que ça. Je lis pas, j'écoute des audiobooks. Mm-hmm. Je voyage beaucoup, ça fait que j'en profite à l'occasion. Le premier que j'ai le goût de dire, c'est « The Advantage of Patrick Lencioni ». J'aime beaucoup Patrick Lencioni. Puis, entre autres, il parle de plusieurs sujets pour aider à bien gérer une entreprise, la culture, être capable de gérer comme il faut les conflits, comment faire des bons meetings pour, tu sais, « agree to disagree ». The Advantage et toutes les séries de Patrick Lencioni, il y a un style particulier que j'adore. Puis l'autre chose, je parlais de Network Effect, je pourrais pas ne mentionner Cold Start by Andrew Shen, qui parle un petit peu de justement Uber, Airbnb, comment qu'on crée quelque chose de disruptive mais qui scale après ça. Puis ça commence avec encore une fois une densité. Fait que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé parce que je parle de Network Effect depuis trop longtemps, mais il met beaucoup en mots, il donne des exemples, c'est très riche. Fait que je recommanderais ça là, à tous les gens qui peuvent avoir un effet de réseau, que ce soit dans, dans le retail, que ce soit des Amazon, des Uber et tout ça, ou dans le très clean tech. Mais c'est deux livres certainement que j'ai bien aimés. Puis j'ai fini, je viens de finir la semaine passée, Never Split the Difference, de Chris Voss. Un vieux classique, ça faisait des années. Puis je me suis dit que j'allais me le clencher. Je me suis clenché en une semaine et demie. Puis je l'ai trouvé, ça m'a fait sourire plusieurs fois. Comment des fois les choses peuvent être simples pour avoir des bonnes négociations. Pour eux qui connaissent le classique. Mais ça faisait longtemps qu'il était sur mon back burner. Là,
Never Split the Difference, un très bon livre pour apprendre, bien entendu, à négocier avec une manière, on pourrait dire, un petit peu différente de ce qu'on pourrait voir. Qui se fait habituellement. Excellent livre que je recommande également. D'ailleurs, tu as parlé d'audiobook, podcast, audiobook. Est-ce que quelque chose qui a marqué ton imaginaire peut-être dans les derniers mois, dernières années?
Non. Je lis pas assez. Je fais vraiment beaucoup d'audiobook. J'aime creuser un sujet, puis après ça, passer au suivant. Ça m'amène de la diversité. Mais non, je j'écoute pas assez de podcasts. Je vais lire des articles sur la HBR, Harvard Business, par exemple, et autres, là, que j'en ai plus à lire que ma capacité, mais sinon, j'aime beaucoup les audiobooks qui creusent en profondeur.
C'est une très bonne manière de continuer à apprendre. Et peut-être je terminerai. Routine, avant, pendant et après le travail, est-ce que des anecdotes, des choses spécifiques que tu fais pour rester très focus avant, pendant et encore, je le répète, après le travail?
Ouais, ben, note très personnelle, tu sais, faut que j'aie l'impression que j'ai une vie dans la vie. Je caricature. Moi, le matin, j'ai une routine, puis tu sais, je me lève et je m'occupe de mes... Je me lève à 6 heures, puis on a notre routine, ma femme et moi, puis je m'occupe de mes enfants avec ma femme, bien sûr, mais j'ai besoin de ça. Quand j'ai pas ça, là, comme l'été s'en vient, je vais partir à la sauvette pour réveiller personne, je vais m'en venir au bureau pour travailler, je verrai pas mes enfants le matin, ça va me déranger comme à toutes les années depuis que j'ai des enfants. Puis le soir, ben après une bonne journée de travail, à 5h30, c'est fini. Je vois mes enfants, puis je recommence vers 7h30, 8h jusqu'à minuit. Wow. J'ai besoin d'avoir du temps avec mes enfants, puis je suis comme des tiroirs, là. Quand c'est le temps de m'occuper de mes enfants, de ma famille, sur l'heure du souper, j'ai besoin de ça. Si je suis plusieurs jours à travailler, par exemple, de 7h le matin à minuit, là, tu sais, des roches, là, à un moment donné, je disconnecte, je perds de la perspective. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi d'avoir, pas de l'impression, mais d'avoir une famille, d'avoir un day-to-day, puis d'être capable de balancer, là, on travaille, mais à un moment donné, c'est le fun de vivre, de sentir qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, puis ça m'aide à faire un reset pour replonger dans le travail le matin.
Bonnes journées, là, tout de même. De commencer tôt le matin, oui, bien entendu, prendre un break en famille, mais de recommencer chaque soir de 7 à minuit, c'est ça que tu fais?
Écoute, ça fait 15 ans que c'est ça, Antoine. Je termine le vendredi à 5h30, je me laisse la fin de semaine. La fin de semaine, très, très rare, je travaille. Mais le dimanche soir, je recommence.
Ça commence le dimanche soir.
À la même heure. Ouais, c'est ça depuis toujours. Ça fait que je te dirais, c'est une seconde nature. Mais si je faisais pas ça, je ferais d'autres choses. C'est une passion pour moi, Flo.
Et vous voyez, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a des organisations qui sont capables d'atteindre cette hyper-croissance, de changer le monde. Les gens qui dirigent ces entreprises-là, c'est pas par hasard qu'ils atteignent ce succès-là. Donc, c'est tout à ton honneur, Louis. Avant de te laisser filer, si on veut en apprendre plus sur Flo, peut-être des fois même vous avez des postes ouverts, l'endroit le plus simple pour vous rejoindre?
Ah, directement sur notre site web, flo.com. On a toutes sortes d'adresses comme talent@flo.com. Mais venez sur flo.com, on a une section carrière. Puis s'il y a des gens d'affaires qui ont des questions ou qui veulent jaser, mon LinkedIn est toujours disponible. Ça me fait plaisir d'avoir ces discussions-là quand le temps le permet, bien sûr.
Fantastique. Louis Tremblay, merci du fond du cœur. Ça a été totalement exceptionnel comme entretien aujourd'hui. Inspirant pour les gens d'affaires, inspirant pour les gens au Québec de se dire, écoutez, on est capable de changer le monde. Nous autres aussi, il faut simplement avoir le courage de le faire. Bien entendu, de mettre l'épaule à la roue et de travailler très fort. Merci beaucoup pour ton temps. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis, à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.